une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va pas juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Faut être un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, prof d'éco en prépa à Sarcelles, et aujourd'hui je vous présente l'un des sujets sur lesquels j'ai bossé tout seul. Aujourd'hui on va parler de McKinsey, de santé au travail et de Valéry Giscard d'Estaing. Vous avez peut-être un ami qui est parti bosser quelques années à l'étranger et qui est revenu en France instruit de toute son expérience. Dans deux cas sur trois, d'après mon expérience personnelle, ça n'est pas très scientifique, je vous l'accorde. Dans deux cas sur trois, donc, il vous racontera combien tout est différent là-bas. Oui, tu comprends, ils ont pas la même conception du travail, là-bas on compte pas ses heures, et puis pas question de faire grève, ça c'est vraiment différent de la France. Et les managers sont bien meilleurs, ils savent diriger, pas comme ici, où franchement, hein...
Bref.
Bref, il y a des gens qui m'énervent.
Dans ces points de suspension, vous avez bien entendu les points de suspension là, il y a un gros sous-entendu. Les managers français sont nuls. D'ailleurs, ça fait des décennies qu'ils et elles sont nuls. Déjà dans les années 70, on trouvait force brochures et ouvrages qui s'inquiétaient du retard français en matière de management, de l'impossibilité à dépasser les vieux conservatismes, de la tendance à la bureaucratie et à l'application bête de vieilles règles surannées. Souvent, ce genre de diagnostic a été fait à la va-vite par des sociologues, des économistes et même des responsables politiques qui voulaient en finir avec ce qu'ils percevaient comme un vieil appareil de production sclérosé et incapable de changement. Le champion de ce genre de discours, à l'époque, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Pas encore la Startup Nation, mais déjà un promoteur de la modernisation et du management, dans le secteur public notamment. Plus près de nous, on trouve quand même quelques sources qui peuvent nous inquiéter sur l'encadrement à la française. D'après un sondage OnePoll de 2018 sur 1 million de salariés français, un quart d'entre eux a déjà quitté son emploi en raison de son manager. Et pourtant, d'après une autre enquête de la Ségos, les managers restent le premier recours en cas d'insatisfaction au travail pour 70% des répondants. Donc, tout se passe comme si on avait besoin de managers très doués. On compte sur elles et eux, mais on est souvent déçu de leur travail. Il fut un temps où je travaillais là-dessus, j'en ai même fait une thèse de doctorat. Pourquoi demande-t-on aux managers de faire en sorte que leurs équipes soient satisfaites de leur travail, alors même que souvent, ça leur échappe en bonne partie? On va voir aujourd'hui que ce n'est pas simple de mesurer ce qui fait un bon manager ou une bonne manager. Mais pour savoir si les Français et les Françaises sont vraiment à la traîne de ce point de vue, il faut quand même arriver à le mesurer. Alors, les managers français sont-ils nuls ? On va commencer par définir ce dont on parle. Il y a quelques années, le terme manager avait encore mauvaise presse en France. Ça faisait américain et ça dénotait un modèle différent par rapport aux entreprises françaises. De nos jours, ce mot est entré dans le vocabulaire des organisations, surtout dans le secteur privé. Mais il peut recouvrir plusieurs réalités. J'en ai parlé avec Valérie Boussard, professeure de sociologie à l'université Paris-Nanterre.
Du coup, en réfléchissant à ça, je me suis dit qu'on pouvait utiliser cette dénomination qui permet de désigner les personnes qui ont des fonctions d'encadrement de personnes. Donc ça, c'est un sens finalement assez restreint du terme de manager, qui est dérivé, à mon sens, un peu du sens français du terme manager, management, qui veut dire quelqu'un qui manage. Quelqu'un qui manage une équipe, qui manage des hommes. Ce qui est un peu différent du sens anglais où manager, c'est l'équivalent de gérer. Et donc, on peut manager de l'argent, on peut être manager d'un fonds d'investissement. Voilà, on peut manager des objets, des choses, sans être un manager humain.
Mais en fait, ça recouvre au moins trois profils différents.
Je me suis dit qu'il y avait effectivement toute une gradation entre les cadres et managers de proximité, les cadres, celui qui fait de l'encadrement dit intermédiaire, voire supérieur, jusqu'au cadre dirigeant qui, par définition, celui-ci, effectivement, encadre, puisqu'il est dirigeant d'une entreprise ou d'une filiale ou d'une division, il encadre des hommes et des équipes. Et je me suis dit que, en fait, dès lors qu'on va parler d'évaluation, on va avoir des évaluations très différentes et des instruments, et des critères et des instruments très différents selon le type d'encadrement.
Cependant, dans tous les cas, les managers sont évalués sur deux types de critères. D'abord, des chiffres qui peuvent être plus ou moins facilement récoltés et objectivés. Combien de voitures ont été vendues par le manager d'une concession automobile? Quel est le taux d'absentéisme de l'usine? Ou encore, quelle rentabilité a atteint la division Asie-Pacifique cette année? L'avantage, c'est que ça a l'air transparent et lisible. Mais bien sûr, la construction de ces indicateurs et leur interprétation ne sont pas si simples. On va y revenir. Deuxième critère, le comportement du ou de la manager tel qu'il est décrit par ses subordonnés, ses pairs et son propre manager. Est-ce que cette personne est à l'écoute, équitable, constructive ou au contraire injuste et en permanence enfermée dans son bureau, par exemple?
Oui, j'aime bien faire chier les stagiaires.
A priori, c'est bien plus difficile à mesurer par des chiffres, donc ça devrait aboutir à de grandes difficultés de comparaison d'un service à l'autre ou d'une entreprise à l'autre, sans même parler de comparer la France à d'autres pays. Mais Valérie Boussard fait remarquer que même ce type d'évaluation des comportements est de plus en plus standardisé.
Les deux dimensions, via les systèmes d'évaluation individuelle des performances, qui sont mises en œuvre par les directions des ressources humaines, enfin ça fait partie de leur, ça s'appelle leur process, et qui se déclinent sous la forme d'entretiens individuels, annuels, dans lesquels le supérieur hiérarchique va fixer des objectifs quantifiés en termes de résultats et des objectifs comportementaux d'amélioration. Il va les fixer, soi-disant en discussion avec le manager en question, et puis en fin d'année, vérifier l'atteinte des objectifs, etc. Que ce soit objectivé par des chiffres ou une appréciation du comportement, il n'y a pas de chiffres. En général, moi, ce que j'ai trouvé, c'est plutôt des descriptions de compétences avec des plus ou des moins. Et dans les deux cas, c'est extrêmement rationalisé, procéduralisé. Et donc, ça prend les formes d'une évaluation qui a des atours scientifiques.
Une partie de l'explication tient aux cabinets de conseil, qui ont été de puissants vecteurs de normalisation et de standardisation des pratiques d'évaluation du management, d'une entreprise à l'autre, enfin surtout dans les grandes entreprises, bien sûr. Une autre partie vient de la formation des responsables des ressources humaines, qui se ressemblent beaucoup d'une école à l'autre sur ce point. Et une dernière explication vient de l'adoption de progiciels de gestion, qui ont eux aussi tendance à répliquer les mêmes modes d'évaluation, chiffrés en l'occurrence, d'une entreprise à l'autre. En tout cas, ça signifie que l'on peut comparer ce que font les managers d'un contexte à l'autre, parce que leur évaluation passe par le même genre de grille. Et c'est ce qui a donné à des économistes, dès le début des années 2010, l'idée d'enquêter sur l'efficacité des managers d'une entreprise à l'autre. Si on leur pose les mêmes questions, sur l'organisation de leur atelier ou de leur usine, par exemple, mais aussi sur les horaires de travail, la manière dont ils promeuvent une salariée qui le mérite, ou encore la façon dont on gère les problèmes de sécurité. Alors, on peut récolter une base de données intéressante. Le mieux, ce serait d'avoir des entreprises de secteurs différents, de tailles différentes, dans des pays différents. Ça permettrait de voir si les différences de productivité, par exemple, sont dues à ce que font les managers, ou à autre chose, la taille de l'entreprise, par exemple. C'est précisément ce qu'a fait une équipe d'économistes autour de Nicolas Bloom, John Van Rynen, et Rafaela Sadoun. Ils et elles ont construit un questionnaire, le World Management Survey, qui a donné lieu à 4 vagues d'enquêtes dans 34 pays auprès de 11 000 entreprises différentes. En fait, leur idée initiale était de répondre à une vieille question d'économie. Est-ce que les firmes adoptent certaines pratiques managériales en raison de leur propre contexte, parce que ce qui est efficace dans le secteur du textile est très différent de ce dont on a besoin dans la métallurgie, par exemple, ou est-ce qu'il existe des pratiques managériales qui, à travers tous les secteurs, tous les pays, toutes les entreprises, permettent d'améliorer l'efficacité ? Qui, à votre avis, pourrait être persuadé d'avance qu'il existe des modèles universels de bonnes pratiques managériales ? J'ai posé la question directement à Rafaela Sadoun. Elle est professeure de Business Administration à la Harvard Business School et elle fait partie de cette équipe de recherche depuis le début.
Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu cette discussion avec un cabinet de conseil. À l'époque, c'était McKinsey. Et l'un de leurs partners a contacté John en lui disant « Écoutez, je pense qu'on sait assez bien quel type de pratiques on trouve dans les organisations bien gérées. » Et du coup, John lui a répondu, « Vraiment ? Comment vous le savez ? Vous en êtes sûr ?»
Ça ne vous étonnera peut-être pas qu'un des leaders du conseil en stratégie soit persuadé que les managers devraient suivre un certain modèle. Mais ça a donné à Rafaela Sadoun et ses collègues l'occasion de mener cette enquête pour vérifier s'il n'existait pas des modèles différents d'efficacité managériale, d'un pays à un autre par exemple.
D'une certaine manière, ce qu'on mesure dans les bonnes pratiques dont je vous parle, ce n'est pas très compliqué. Regardez le questionnaire. Vous verrez que ce sont des choses assez basiques, du type, est-ce que vous mesurez la production en temps réel ? Est-ce que l'équipe a des objectifs réalistes ? Est-ce que vous pouvez faire remonter les problèmes ? Est-ce que vous pouvez récompenser le talent et parvenir à ce que les bonnes personnes montent en compétences ? Donc, ce sont des choses assez basiques. Et du point de vue des économistes, l'idée que ces pratiques pouvaient varier d'une organisation à une autre paraissait impossible. C'est tellement basique que tout le monde devait les appliquer. Et les entreprises qui n'appliquent pas ces principes devraient être évincées au bout du compte. Donc, quand ce consultant a dit à John, je pense qu'on sait assez bien ce que sont des entreprises bien gérées, c'était comme une sorte de défi pour nous. Ok, vous avez cette intuition. Voyons si on peut mesurer rigoureusement l'adoption de ces pratiques et voyons ce qu'on trouve. Est-ce que ça varie ? Et si ça varie, est-ce que c'est corrélé avec des mesures chiffrées de performance ?
Is it really correlated with hard measures of performance?
Attendez une minute. Je viens de vous dire que c'était difficile de définir un bon manager en général. Alors, quels critères on retient pour définir ici la performance en général? On pourrait en retenir trois si on regarde les publications de Raphaël Assadoun et de ses co-auteurs. Le taux de survie des entreprises, c'est-à-dire leur capacité à ne pas faire faillite, en gros, leur profit et leur productivité. On va retenir ce dernier critère pour la suite. La productivité, c'est simplement le rapport entre la production et la quantité de facteurs de production utilisés. C'est à la fois un indicateur assez synthétique et surtout ça permet de formuler un modèle assez simple. Je vous résume celui-ci en deux mots. On suppose que la production des entreprises est le résultat de la combinaison de leurs facteurs de production, mais aussi d'un facteur M. Celui-ci correspond justement à ce que font les managers, tel qu'on le mesure dans le questionnaire. Si M varie sans que la production des entreprises varie, alors c'est que les pratiques managériales n'ont pas d'impact sur la productivité. Dit autrement, celles-ci sont contingentes à l'entreprise. On ne gère pas de la même manière des entreprises différentes, mais cette différence de pratique n'a pas de rapport avec leur performance.
Qu'est-ce qu'on a dit ?
Je vous résume celui-ci en deux mots.
Si en revanche on trouve une corrélation entre la variation de M et la variation de la production des entreprises, alors c'est bien que les pratiques managériales peuvent rendre ces dernières plus efficaces, ou moins. Résultat, en effet, on trouve une corrélation entre le facteur M et la production. Et celle-ci est valable même en tenant compte des différences de secteur, de pays, de taille d'entreprise et d'autres variables encore.
J'ai rien compris.
Oui, bah, c'est pas grave.
Bref, il semble bien qu'il y ait un lien de cause à effet qui a été vérifié dans toutes les vagues de cette grosse enquête. Au passage, ça signifie donc que les bonnes pratiques managériales, celles qui contribuent à la productivité, peuvent être les mêmes dans tous les pays. Pas de raison que les managers américains soient meilleurs que les Brésiliens uniquement du fait de leur nationalité ou de leur culture. Du moins les pratiques basiques qui sont testées dans cette enquête. Mais il est possible que les pays les plus riches soient ceux dans lesquels les scores de management sont les meilleurs. C'est d'ailleurs ce qu'on observe. Les Américains sont les premiers du classement. Normal, vu que les pays les plus riches ont les entreprises les plus productives. Et comme vous le savez, les gains de productivité sont la principale source de croissance du PIB à long terme. Mais ça pose une question. Est-ce que cette enquête n'aurait pas un petit biais américano-centré ? Est-ce qu'on ne serait pas en train d'évaluer la conformité à un modèle américain de management ? J'ai carrément posé la question à Raphaël Assadoun.
Écoutez, moi je suis italienne. Mes co-auteurs sont britanniques. On a des Brésiliens dans l'équipe. Personne d'entre nous n'est américain. Je commence par le préciser pour que ce soit bien clair. Et je ne crois pas qu'on s'occupe seulement des pratiques managériales américaines. Je m'explique. En moyenne, c'est vrai, les entreprises américaines ont un score de management bien plus élevé. En fait, l'avantage d'avoir des données microéconomiques au niveau des firmes, c'est qu'on peut mesurer ce qui se cache derrière les moyennes. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a des entreprises très bien gérées partout dans le monde. Pour ces pratiques, elles sont adoptées internationalement. Donc ce n'est pas seulement un phénomène américain.
Ce qu'on constate par ailleurs, c'est qu'il y a davantage de variations entre les firmes d'un même pays qu'entre les pays. Autrement dit, il peut y avoir des managers complètement nuls et d'autres excellents, en France par exemple, mais aussi dans n'importe quel autre pays de l'échantillon. À ce stade, il faut entrer un peu plus dans le détail du questionnaire de Raphaël Assadoun et ses collègues. Vous pouvez le trouver en ligne sur worldmanagementsurvey.org. On y trouve par exemple des questions sur le degré d'autonomie dont jouissent les managers pour prendre des décisions. Pas au niveau de la direction générale, mais dans les ateliers ou dans le service concerné. Les entreprises qui laissent plus d'autonomie à leurs managers de proximité ont des meilleurs résultats en termes de productivité.
Il faut accepter qu'un problème puisse être déclaré à n'importe quel niveau de l'organisation, par n'importe qui, non seulement un supérieur hiérarchique, mais surtout quelqu'un qui est sur le terrain et qui a l'information parce qu'il est plongé dans l'action. Et je ne pense pas que tous les managers aient cette capacité à écouter les niveaux hiérarchiques qui leur sont inférieurs. Et ça, c'est le genre de frictions qui sont un obstacle au bon management.
Un manager qui écoute ce que disent ses collaborateurs et ses collaboratrices, même quand c'est difficile à entendre, ça paraît là encore la base, et donc assez facile à mettre en œuvre. Mais quand on se penche sur la définition d'un bon manager, on trouve surtout des conceptions très variables et très différentes en fonction de la personne qui répond à cette question. Valérie Boussard nous explique ce point.
Il semblait qu'il y avait justement plusieurs définitions du manager. Déjà, il y a définition du point de vue de ses supérieurs, du point de vue de ses pairs et du point de vue de ses subordonnés. Et les définitions peuvent être en contradiction.
Prenons un exemple dans une grande entreprise française sur laquelle Valérie Boussard a enquêté.
Donc là, la norme d'évolution des bons managers, c'est qu'ils doivent changer de poste tous les 3-5 ans. Alors là, dans cette situation, on a une mesure des résultats qui est assez complexe. On a beaucoup d'éléments sur lesquels le manager n'a pas de prise directe, parce que tout est plutôt à moyen terme, ou aussi parce qu'il récupère, tu sais, imagine quelqu'un qui récupère une gare ou une ligne à la SNCF, c'est un ensemble assez complexe. Et du coup, l'évaluation, elle se fait plutôt sur la mise en œuvre de changements. Un bon manager, c'est quelqu'un qui a des nouveaux projets, met en place de nouvelles procédures, des nouveaux modes d'organisation. Tu vois, il fait une réorganisation, il introduit un nouveau dispositif. Et du coup, là, il va être jugé comme un bon manager. Il se sera comporté comme il est attendu que le manager se comporte. Et ça donne une situation paradoxale où l'évaluation de son action ne va se faire finalement qu'à moyen terme. Et à moyen terme, c'est au moment où il sera parti. Et donc là, on a... Et ça, c'est des témoignages aussi dans les enquêtes, des équipes qui payent souvent les conséquences des réorganisations, des transformations. Donc, qui vont considérer que ce que le manager a fait n'est pas performant, pas bon, c'est pas efficace, c'est pas productif, j'utilise des tas de termes, alors que le manager, lui, il n'est pas là pour le voir, puisque comme il a été considéré comme bon, il a été transplanté dans un autre endroit. Il fait autre chose.
Clairement, dans ce cas, on peut voir une divergence entre ce que la direction générale pense être un bon manager et ce que les équipes en disent dans les services. Et plus généralement, il y a une grande latitude possible dans ce qu'on retiendra comme un bon comportement. Valérie Boussard cite par exemple le cas de ces directeurs généraux d'une grande entreprise qui se félicitent d'agrandir le domaine de leur division respective en disant qu'ils ont laissé du sang sur les murs derrière eux, comme si la brutalité avec leurs subordonnés était un titre de gloire.
Bien joué, les gars.
Comment réconcilier ce point de vue de sociologue, attentif à la variabilité des pratiques que l'on range derrière le management, et celui de Raffaella Sadoun et de ses co-auteurs ? Je vois au moins un point sur lesquels on peut les réconcilier. Dans les enquêtes de sociologie, comme dans le World Management Survey, on constate que ce qui permet d'augmenter la productivité des entreprises, c'est qu'il y ait des espaces de discussion sur le travail, et y compris une discussion sur la manière dont on évalue le travail. Yves Clos, un psychologue clinicien qui a beaucoup écrit sur ce genre de questions, disait qu'on n'en a jamais fini avec la question du bon travail. Il n'y a pas une manière unique de définir ce que c'est. Au contraire, les organisations dans lesquelles on prend le temps d'instruire ces questions, de résoudre les problèmes qui se posent, d'avancer des solutions qui sont elles-mêmes discutées, ont de meilleures performances, aussi bien du point de vue de la santé que de l'efficacité productive. C'est valable aussi pour le management. Plutôt que de chercher à imposer une vision unique de ce que serait le bon manager, les organisations les plus efficaces sont celles qui permettent que l'on en discute. Raffaella Sadoun le dit en des termes qui sont ceux de la Harvard Business Review.
I think it's central. Management is not about bossing people around.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que le management, ce n'est pas donner des ordres aux gens. Il ne suffit pas d'ouvrir, d'adopter un process et hop, le lendemain, vous allez dire aux gens ce qu'ils doivent faire et ils vont le faire. Il faut vraiment travailler dur pour créer une compréhension commune, faire comprendre aux gens pourquoi ils devraient vous suivre et qu'ils soient capables de participer à la manière dont l'entreprise est gérée.
Est-ce que les managers français et françaises ont cette capacité à discuter du sens du travail, à créer une compréhension partagée et à faire participer leurs collaborateurs et collaboratrices à la résolution des problèmes ? Vous devinez ma réponse, ça dépend des boîtes. Le deuxième point d'accord entre la perspective sociologique et les recherches en économie, c'est que l'organisation du travail détermine très nettement ce que peuvent faire les managers. Si votre chef de service passe son temps dans son bureau, ne vous donne jamais rien à part des directives chiffrées, et n'est pas au courant des problèmes que vous rencontrez, c'est sûrement parce qu'on lui demande d'agir ainsi. On sait l'organisation de l'entreprise dans laquelle vous bossez, et lui aussi. À l'inverse, donner plus de latitude de décision au manager de proximité, c'est une autre forme d'organisation du travail, ce qui ne se règle pas à l'échelle d'un manager tout seul. Alors, conclusion, est-ce que les managers français sont nuls ? Déjà, vous remarquerez qu'on a assez peu parlé de la France dans tout cet épisode. Et pour cause, ce que l'on constate, c'est à la fois que les entreprises françaises ont adopté des pratiques managériales pas très différentes de celles d'autres pays, mais aussi que les différences entre firmes sont plus importantes que les différences entre pays. En revanche, s'il reste des petits chefs tatillons et bureaucratiques, ou encore des directeurs de division complètement imbus de leur grandeur et aveugles au terrain, c'est sans doute en partie de leur faute, mais surtout de l'organisation du travail qui les incite à agir ainsi. Ce n'est pas un problème de formation des managers. Ce n'est pas non plus un trait culturel que l'on pourrait attribuer aux Français plutôt qu'à d'autres. D'ailleurs, ce n'est même pas une question de genre. Il y a des directrices générales complètement nulles, comme de très bonnes managers au féminin. Comment on fait pour améliorer ce que font les entreprises les moins productives ? On commence déjà par la base. Ne pas promouvoir à des postes de management des gens qui sont détestés par leurs pairs. Suivre des indicateurs de production en temps réel. Ou encore écouter ce que disent les gens de métier à propos de leur métier. Au-delà de ces pratiques basiques, mais qui augmentent considérablement la productivité d'une boîte à l'autre, reste à construire de meilleures organisations du travail. Je vous dirai bien comment on peut faire en alliant à la fois une meilleure santé au travail et des performances économiques. Mais je crois que je n'ai plus le temps. Ce sera pour un prochain épisode. Splash est un podcast de nouvelles écoutes, écrit et animé par moi, Emmanuel Martin. Prise de son, montage et mixage, Adrien Beccaria à l'arrière-boutique studio. Réalisé par Adrien Beccaria et Mathilde Jolin. Produit par Julien Neuville. Directrice générale adjointe, Nora Issem. Directrice des productions, Marion Gourdon. Directrice artistique, Aurore Mailleux. Chargée de production, Mathilde Jolin, avec l'aide de Neila Akmi.